va voir en tout cas s'il va y avoir des followers supplémentaires pour Zoé Svez suite à un dossier que vous consacrez à une performance sauvage qui a poussé le musée Guimet à être évacué dimanche dernier, Zoé.
Alors justement, ce type de performance d'ailleurs marche très bien sur le web. C'est comme ça que la jeune artiste qui l'a fait en tout cas s'est fait connaître. C'était le dernier jour de l'Expo Araki dimanche dernier, consacré donc à ce photographe japonais adepte du bondage qui photographie des jeunes femmes nues ou pas, souvent attachées, qui regardent l'objectif, mais aussi des orchidées qui évoquent souvent un sexe féminin. Dimanche, donc, la jeune artiste luxembourgeoise Déborah De Roberti s'est arrivée devant l'une des photos de l'expo qu'elle a réinterprétée. Habillée d'un kimono blanc très transparent, elle s'est mise à manger à main nue une pastèque située entre ses jambes. Alors ce n'est pas la première fois, loin de là, que la jeune femme fait irruption dans une institution culturelle. Elle est déjà intervenue notamment deux fois en France au musée d'Orsay, réinterprétant la première fois l'origine du monde, donc où elle a posé donc sexe à nu devant le tableau. Puis plus tard, l'Olympia de Manet, reproduisant la pose de l'Odalisque, donc nue là encore avec un bouquet à la main. Ouais. Déborah De Roberti, vous voyez de quoi je parle.
J'essaie de faire le geste de manger de la pastèque.
Non, c'est entre ses cuisses. Entre ses cuisses, voilà, avec les deux mains dedans. Déborah De Roberti qui souhaite, en fait, dans son travail, renverser le regard sur la nudité dans l'art, imposer le point de vue non pas du spectateur, mais du modèle. Elle filme toujours ses performances à l'aide d'une caméra GoPro. Performance, évidemment, qui se veulent aussi une critique des institutions et de leur vision de l'art figé, qui dure souvent très peu, puisqu'elle est souvent évacuée très rapidement par les gardes du musée. Elle refuse, en effet, de demander l'autorisation de l'institution où elle va intervenir. Elle estime qu'elle apporte une contribution à cette exposition, explique que c'est d'ailleurs un peu ce que le public semblait avoir compris dimanche au musée Guimet.
J'ai l'impression, en tout cas pour cette fois, que je m'inscrivais très bien dans le cadre de l'exposition et donc il y avait cette ambiguïté sur le fait que je sois programmée ou pas dans l'exposition pour le spectateur. Mais sinon, c'est vrai qu'a priori, demander une autorisation, ça supposerait que j'accorde à l'institution le droit de valider ou pas mon travail. Ça ne fait pas partie, voilà, non, c'est pas dans ce sens que je pose ma question. Moi, je m'invite à l'exposition et ça, c'est une façon de prendre ma place. Enfin, c'est pas par rapport aux réactions ou pas des gardes. Moi, je considère que si je m'invite et que je fais une performance, je propose quelque chose qui me semble toujours, de mon point de vue, être accessible à la fois public comme pour l'institution. Donc, à partir de ce moment-là, l'autorisation, je ne considère pas transgresser quelque chose. Donc, je trouve qu'elle n'est pas nécessaire dans le cadre de mon travail.
Même s'il a dû évacuer l'exposition une heure avant l'heure de fermeture prévue, le musée Guimet, on l'a appris hier soir, a finalement renoncé à porter plainte contre Déborah De Roberti.
Oui, alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle, parce que ses rapports avec les institutions sont quand même très compliqués. Ses deux interventions au musée d'Orsay lui ont valu deux arrestations. La deuxième fois, c'était 48 heures en garde à vue, 24 heures en hôpital psychiatrique, et il a fallu qu'elle convainque qu'elle était en bonne santé mentale. Elle a aussi plusieurs plaintes pour exhibition sexuelle à chaque fois, à cause d'autres performances dans plusieurs musées, notamment à Bruxelles.
Ah, voilà.
Alors elle est défendue par Maître Toufi Kaznoun, c'est un avocat qui aussi défend plusieurs femmes qui elles aussi sont régulièrement inculpées sous ce chef d'exhibition sexuelle, le même finalement que tous les exhibitionnistes et autres agresseurs sexuels. Un chef d'accusation abusif et arbitraire selon lui en matière d'art, dans la mesure où en plus la plupart des artistes hommes ou performeurs masculins ne sont eux jamais poursuivis.
C'est une infraction qui est prévue par le code pénal et qui vise à sanctionner l'exhibition sexuelle, mais sans véritablement de précision quant à la nature des actes susceptibles de permettre justement cette qualification. Autrement dit, alors même que c'est une infraction sexuelle, on se rend compte qu'elle est utilisée pour la simple nudité. Je me bats depuis quelques années maintenant pour une redéfinition de ce texte qui est tellement large que tout et n'importe quoi peut en relever. Il doit y avoir un débat sur cette exhibition sexuelle parce que l'incrimination est vraiment dangereuse, parce que elle est une source d'arbitraire, une judiciaire, puisque on voit bien que tantôt on poursuit, mais on ne poursuit pas par exemple les homènes ou d'autres situations où effectivement des personnes montrent leur sein ou leur partie génitale.
Voilà, alors Déborah De Roberti qui doit comparaître très bientôt, on n'a pas encore la date, devant un tribunal à Paris qui commence à risquer gros, mais qui indique qu'elle ne compte pas renoncer pour le moment à ses performances.
Et tout de suite, sous le regard de Jean Birnbaum du Monde des Livres, vous voulez donner le nom du lauréat du prix littéraire du Monde.
Et c'est Yvan Jablonka pour Laetitia ou La fin des hommes qui a remporté ce prix littéraire du Monde. Ce livre qui n'est ni un roman ni un essai, mais une sorte d'enquête sociologique sur le meurtre de la jeune Laetitia Perret, assassinée à 18 ans en 2011. Meurtre peu couvert par les médias, livre très remarqué puisqu'il qu'il figure aussi sur les listes du Renaudot et du Goncourt.
Oui, remarque. On a ouvert la voie.
Oui, bah voilà, c'est souvent comme ça. On ouvre la voie. Le Goncourt et le Renaudot ont remarqué ce livre parce qu'on en parlait beaucoup entre nous dans notre jury littéraire. Et bah, ce livre, je crois que vous l'avez aussi, je crois, regardé. Il est important. Et notamment pour une raison simple, c'est que c'est un essai. C'est quand même un prix littéraire qui est accordé à un essai. Et donc, ça rappelle qu'il faut arrêter avec toutes ces cloisons entre la pensée, la fiction, etc. Que y a l'essai, ça pense aussi, ça imagine. Et que l'essai, c'est ce genre qui a été inventé pour que la littérature continue à apporter sa pierre à la connaissance.
Le pianiste turc Fazil Say a finalement été acquitté mercredi, Zoé.
Fin d'une très longue saga judiciaire pour ce pianiste virtuose qui se produit dans le monde entier, qui avait été condamné à 10 mois de prison avec sursis en 2013 pour un tweet où il moquait le gouvernement islamiste modéré turc de l'AKP. Tweet jugé injurieux, je cite, envers les valeurs religieuses. Après 6 décisions de justice, celle-ci, validée par la Cour suprême, est enfin définitive.
Et puis un démenti, celui du leader du groupe Massive Attack, il n'est pas Banksy.
Non, vous connaissez sûrement le nom de Banksy, street artiste aujourd'hui le plus célèbre du monde. Ses œuvres s'arrachent à prix d'or, le plus iconoclaste surtout. On ignore toujours quelle est sa véritable identité. Une enquête parue la semaine dernière dans Daily Mail affirmait qu'il s'agissait en fait de Robert Delanaja, je sais pas comment on le dit, leader originaire lui aussi de Bristol comme Banksy. Les dates des interventions de l'artiste et celles des tournées du groupe étaient cohérentes. Info démentie hier par le principal intéressé.